Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir tout le monde. Il est agréable de vous rencontrer de nouveau dans l'émission quotidienne en français de La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et ayez toujours le temps d'écouter nos programmes. Pour ce soir, l'émission sera commencée par le journal, suivi de commentaires, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point sur l'environnement.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le gouvernement régional du Japon encourage la coopération avec l'Indonésie. L'Indonésie est un marché potentiel pour le Japon. Le président Jokowi encourage l'agence spéciale de l'ONU à créer une règle pour prévenir la pollution maritime. L'Indonésie et la Grande-Bretagne ont convenu d'établir une coopération dans divers domaines. BKPM est prête de continuer le plan d'investissement de l'Allemagne à l'Indonésie. L'Indonésie sera l'hôte de 26e Conférence internationale des partis politiques d'Asie, ou ICAPP. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le gouverneur de la préfecture de Wakayama, Yoshinobu Nisaka, a encouragé l'établissement d'une forte coopération économique entre le gouvernement indonésien et le gouvernement local au Japon. Selon lui, la coopération peut aider à faciliter l'établissement de la coopération plus complète avec toutes les régions, à la fois en Indonésie et au Japon. C'est ce qu'a affirmé Yoshinobu Nisaka après avoir donné un discours à l'événement de promotion Wakayama mardi à Jakarta. Il a déclaré que la coopération entre le gouvernement indonésien et le gouvernement local au Japon, surtout Wakayama, peut encourager la diffusion d'informations sur les possibilités de coopération entre l'Indonésie et le Japon. Les hommes d'affaires à Wakayama ont des potentiels de coopérer avec l'Indonésie, y compris dans les activités d'exportation, les investissements et la technologie. Cependant, nous ne disposons pas des informations complètes sur nos partenaires en Indonésie. Ces informations sont fournies par la Direction générale de développement national d'exportation. Voilà pourquoi nous devons collaborer pour faciliter la coopération entre les hommes d'affaires. Le gouverneur de la préfecture de Wakayama, Yoshinobu Nisaka, est optimiste que la coopération entre le gouvernement indonésien et le gouvernement régional au Japon contribuera au développement de l'Indonésie. Il espère que la coopération produirait une relation plus bénéfique entre les deux pays. L'Indonésie est un marché potentiel pour le développement de la coopération économique parce que l'Indonésie a une grande population, y compris beaucoup de jeunes générations potentielles. Il a été déclaré par le gouverneur de la préfecture de Wakayama, le Japon, Yoshinobu Nisaka, en marge de sa visite en Indonésie mardi à Jakarta. Selon lui, l'Indonésie est un pays promoteur pour renforcer la coopération économique, notamment avec le Japon. Il voulait donc documenter la bonne relation avec l'Indonésie. L'Indonésie est un marché intéressant, car elle a un grand nombre de populations, y compris la jeune génération, avec les capacités et la force variées. Elle dispose également d'une bonne croissance économique. Voilà pourquoi je considère l'Indonésie comme un pays promoteur et nous essayons d'accroître la coopération. Le gouverneur de la préfecture de Wakayama, Yoshinobu Nisaka, visite l'Indonésie pendant 5 jours, du 16 au 20 avril 2016. Lors de sa visite, le gouverneur Yoshinobu Nisaka a rencontré plusieurs intervenants en Indonésie pour intensifier la coopération économique et pour promouvoir le potentiel de la préfecture de Wakayama en Indonésie. En outre, il a rencontré le gouverneur de la province d'Aceh, M. Zaini Abdullah, la Chambre de commerce et d'industrie de l'Indonésie et le directeur général du développement des exportations nationales du ministère indonésien du commerce. Le gouverneur Yoshinobu Nisaka a également prononcé une conférence publique sur la journée mondiale de tsunami et a ouvert un séminaire du tourisme et de l'industrie de Wakayama. Le président Joko Widodo a assisté à la séance du Comité de la protection du milieu marin au MEPC de l'Organisation maritime internationale ou OMI dans sa visite de travail à Londres. Dans son discours lors de la réunion, le président a encouragé OMI à faire des règlements pour lutter contre la pollution marine. Jokowi a déclaré que le monde a été contaminé par la pollution marine résultant des activités minières, mais il n'y a pas encore de règles globales pour prévenir une pollution. L'Indonésie estime que la préservation de la mer devient la responsabilité des citoyens du monde. La prospérité future du monde dépend des pays de maintenir la mer à travers la coopération internationale, notamment via IMOI, a déclaré le président Joko Widodo au siège de l'OMI à Londres mardi 19 avril, heure locale. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'Indonésie et le Royaume-Uni sont d'accord pour établir une coopération dans divers domaines. Cette question a été discutée lors de la visite du président Joko Widodo dans ce pays. Dans la réunion entre le président Joko Widodo avec le premier ministre britannique David Cameron, ils ont signé des accords de coopération dans divers domaines. C'est ce qu'a déclaré par l'équipe de communication du président, M. Ari Dwipayana, dans sa déclaration à Londres mercredi. Il y a 5 mémorandums d'accord qui ont été signés par les deux pays, tels que la coopération des industries créatives, la coopération pour l'enseignement supérieur, la coopération de l'information et l'expérience dans l'organisation des événements sportifs du monde, le règlement sur la coopération maritime et la pêche, et la coopération entre PT Garuda, Airbus et Rolls-Royce. Le protocole d'accord a été signé, entre autres, par la ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Mme Retno Marsudi, la ministre des Affaires maritimes et de la pêche, Mme Susi Pujiastuti, et le directeur de Garuda Indonesia, M. Arif Wibowo. Avec la signature de 5 accords de coopération dans divers domaines, aujourd'hui reflète un renforcement des relations bilatérales. Le Conseil de la coopération des investissements, ou BKPM, poursuivra les résultats d'investissement entre le président Joko Widodo et le directeur de la société allemande et le chef de BKPM, M. Franky Sibarani, dans un communiqué de presse mardi à Jakarta, a déclaré que l'une des mesures des BKPM était de former une équipe de promotion de l'investissement pour superviser l'intérêt de l'investissement de l'Allemagne. Franky Sibarani espère d'augmenter la confiance des investisseurs en Allemagne à l'Indonésie. Selon lui, certaines entreprises allemandes qui ont rencontré le président ont investi en Indonésie. Quand ils ont rencontré le président Joko Widodo, ils ont présenté des plans d'expansion de ces investissements. D'autres investissements potentiels sont le secteur d'automobile, outre la fonderie. L'Indonésie sera lors de 26e conférence internationale des partis politiques d'Asie, ou ICAPP, qui est devenu le forum pour l'échange d'informations et l'expérience et la coopération entre les partis politiques. Il a été déclaré par le membre du comité permanent, Théo El Sambuaga, dans une conférence de presse au Parlement mardi, Jakarta. Selon Théo El Sambuaga, aujourd'hui, PDIP et Golkar sont les membres du comité permanent de la ICAPP. Il a déclaré que le forum était une manifestation des relations entre les partis politiques et est très spécial parce que c'était la première réunion trilatérale entre le CIPA, les représentants des partis politiques africains, ou ACPP, et des représentants de l'Amérique latine. Cet événement aura lieu du 22 au 23 avril 2016 sur le thème « Le rôle des partis politiques à accroître le bien-être public ». À travers ce thème, les partis politiques de l'Asie, l'Afrique et l'Amérique déterminent à encourager le rôle des partis politiques pour améliorer la démocratie et le bien-être du peuple. Théo Sambuaga a déclaré que cet événement sera ouvert par le vice-président Youssouf Kalla et fermé le 24 avril 2016. C'était le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé Brésil dans la tempête politique. La Chambre basse du Parlement brésilien a voté dimanche pour la destitution de la première femme présidente brésilienne, Dilma Rousseff, à la majorité des deux tiers, aux 342 voix. Ce résultat signifie que le Sénat lancera formellement le processus de destitution de Mme Rousseff dans la semaine à venir. Le Parlement du Brésil a déposé une motion de destitution après avoir accusé Rousseff de manipuler des comptes du pays illégalement. Concernant l'audience à la Chambre basse du Parlement, des milliers de personnes, de ceux qui sont d'accord et en désaccord, ont rassemblé près du bâtiment du Parlement. Ceux qui rejettent la destitution sont les partisans de la faction du Parti socialiste, tandis que ceux qui soutiennent sont les partis d'opposition de droite et le Parti du Mouvement démocratique brésilien et le Parti progressif. Ils attendent les résultats du vote au Parlement. Après avoir voté, la présidente Dilma Rousseff a fait une déclaration au public le mardi 19 avril qu'il était innocent et le Parlement avait accusé sans aucune preuve. Rousseff continuera à lutter contre la destitution qui est considérée comme un coup d'État. La présidente Rousseff face à la destitution après le soutien à lui a chuté drastiquement. Le Parti progressif du Brésil, le membre de la coalition au pouvoir s'est désolidarisé du gouvernement de la présidente Dilma Rousseff la semaine dernière. Le Parti progressif occupe 47 sièges du Parlement. En mars, le plus grand partenaire de la coalition, le Mouvement démocratique brésilien, ou PMDB, a retiré le soutien et devenir l'opposition. Outre la question de la manipulation des comptes, les partis d'opposition ont accusé qu'il y a la corruption par les élites au Brésil qui provoque la crise économique la plus grave en Brésil. Le scandale de corruption qui implique également l'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva, la police brésilienne enquête sur le scandale de corruption à la National Oil Company Petrobras. La police fédérale a émis des mandats d'arrêt 33 personnes. Selon les rapports des médias locaux, la police a également arrêté et détenu l'ancien président Lula da Silva. Le Monde attend la réponse du Conseil suprême, le Sénat du Brésil, contre la décision de la Chambre basse du Parlement brésilien qui soutient la destitution de Dilma Rousseff. Est-ce que la destitution de Rousseff signifiera l'augmentation économique brésilienne? La chute économique n'est pas seulement causée par le scandale de corruption de haut niveau, mais aussi à cause du bas prix de la production pétrolière brésilienne Petrobras. Est-ce que la destitution mettra fin aussi à la crise politique qui a duré 18 mois et de rétablir le Brésil dans une meilleure situation? Sinon, le monde fera une icône dans le développement économique du monde connu comme BRIC, tel que le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, seulement une mémoire. Bien sûr, ce n'est pas ce qui est attendu. C'était le commentaire de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir à tous. Voici l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons avec l'événement 20 avril 1902. Pierre Curie et son épouse ont découvert le radium. Pierre Curie est un physicien français. Il est principalement connu pour ses travaux en radioactive, en magnétisme et en piézoélectricité. Lui et son épouse Marie Curie, pionnière de l'étude des radiations, récurent une moitié du prix Nobel de physique de 1903. L'autre moitié a été remise à Henri Becquerel, en reconnaissance des services extraordinaires qu'ils ont rendus par leur effort conjoint de recherche sur les phénomènes de radiation découverts par le professeur Henri Becquerel. L'autre information est sur le massacre au lycée de Colombine, 20 avril 1999. Eric Harris et Dylan Klebold, respectivement âgés de 17 et 18 ans, ont abattu 12 élèves et un professeur et blessant 23 le 20 avril 1999 dans leur lycée de Colombine. Et puis, ils se suicident. Cet incident a fait des conflits dans la société américaine sur les lois de la liberté d'utiliser une arme dans leur pays. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec la Journée nationale des consommateurs. Sur la base du décret présidentiel numéro 13 en 2012 sur la Journée nationale des consommateurs, le 20 avril a été désigné comme la Journée nationale des consommateurs en se référence à la loi numéro 8 en 1999 sur la protection des consommateurs. 20 avril a été choisi parce que cette date est la date de promulgation de la loi sur la protection des consommateurs. En plus d'améliorer la compréhension des consommateurs sur leurs droits et obligations, la commémoration de la Journée nationale des consommateurs pourrait placer le consommateur en tant que déterminant sur celle de l'activité économique, ainsi que des consommateurs intelligents qui aiment les produits nationaux. Ainsi, les hommes d'affaires seront motivés pour améliorer la qualité de ses produits et services. Il est donc prêt à accueillir dans son propre pays et à concurrencer sur le marché mondial. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs. Voici la mise au point et en pour titre. Le gouvernement indonésien a le projet de faire le moratoire des terres de palmiers à huile et de mines. Le gouvernement va stopper provisoirement ou faire le moratoire des concessions des terres de palmiers à huile dans certaines provinces. Les terres de palmiers à huile existantes étaient suffisantes, de sorte que le moratoire est nécessaire. Comme l'a déclaré le président Joko Widodo lors de l'annonce du mouvement national du sauvetage des plantes et des animaux sauvages sur l'île de Caria aux Mille Îles jeudi 14 février dernier. Selon le président, la terre existante peut être augmentée en maximisant le potentiel de sa capacité de production. Mais le président n'a pas dit quand le moratoire devrait commencer et quelle forme de régulation qui seront utilisées. Le président a également le projet de préparer un moratoire sur les zones minières. Le président Joko Widodo mettra en ordre le secteur minier spatial afin de ne transgresser la limite de la concession forestière qui était fixée. Selon le président Jokowi, il est très important de garder la conservation naturelle parce que l'espoir du monde et l'avenir de la nature dépendent de la conservation de la nature en Indonésie. À la même occasion, le ministre coordinateur des Affaires économiques, Darmin Nasution, a affirmé que le gouvernement avait ses propres raisons de faire un moratoire ou suspendre l'ajout des terres de palmiers à huile et des mines. Le moratoire des terres de palmiers à huile ne ferait pas les entrepreneurs de pénurie de terres, parce que fondamentalement, les plantations de palmiers à huile peuvent produire en replantant des palmiers à huile déjà. Darmin Nasution a également expliqué le moratoire des terres de mines. Selon lui, la politique vise à fournir la justice aux entrepreneurs miniers qui ont construit des usines de traitement et de la fonderie. Car s'il n'y a pas de moratoire, l'entreprise qui ne construit pas une fonderie sera toujours en mesure d'exporter. En ce qui concerne le moratoire sur les terres de palmiers à huile, les hommes d'affaires regroupés à l'Association des hommes d'affaires de palmiers à huile accepteront la décision du gouvernement. Cependant, l'association va également fournir des points de vue au gouvernement concernant cette politique parce que l'expansion de terres de palmiers à huile au cours des dernières années est à l'étape minime. C'est ce qu'a affirmé le porte-parole de l'Association indonésienne des hommes d'affaires de palmiers à huile, GAPKI, Tofan Mahdi, à BBC Indonésie récemment. Tofan assure qu'il est encore possible d'améliorer la productivité. Le plan de moratoire sur les terres de palmiers à huile et des mines a également été salué par les écologistes. Le gestionnaire de plaidoyer exécutif national de l'Organisation indonésienne de l'environnement, Zenzi Suhadi, exhorté, le gouvernement a aucune exception dans l'application du moratoire. Toutes les forêts qui restent doivent être protégées. L'Organisation environnementale de Greenpeace de l'Indonésie a salué le plan du moratoire sur les terres de palmiers à huile et des mines. Le chef de Greenpeace pour la campagne mondiale des forêts indonésiennes, Kiki Taufik, espère que le plan du gouvernement sera réalisé immédiatement sous la forme d'un décret présidentiel qui a la force juridique contraignante. Parce que le format des instructions du président il y a quelques années n'a pas eu de sanctions juridiques pour les contrevenants. Sagittaire, c'était la mise au point sur l'environnement de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Et après, nous vous présentons le rappel des titres de l'actualité.
Le gouverneur de la préfecture de Wakayama, Yoshinobu Nisaka, a encouragé l'établissement d'une forte coopération économique entre le gouvernement indonésien et le gouvernement local au Japon. Selon lui, la coopération peut aider à faciliter l'établissement de la coopération plus complète avec toutes les régions, à la fois en Indonésie et au Japon. C'est ce qu'a affirmé Yoshinobu Nisaka après avoir donné un discours à l'événement de promotion Wakayama mardi à Jakarta. Il a déclaré que la coopération entre le gouvernement indonésien et le gouvernement local au Japon, surtout Wakayama, peut encourager la diffusion d'informations sur les possibilités de coopération entre l'Indonésie et le Japon. Les hommes d'affaires à Wakayama ont des potentiels de coopérer avec l'Indonésie, y compris dans les activités d'exportation, les investissements et la technologie. Cependant, nous ne disposons pas des informations complètes sur nos partenaires en Indonésie. Ces informations sont fournies par la Direction générale de développement national d'exportation. Voilà pourquoi nous devons collaborer pour faciliter la coopération entre les hommes d'affaires. Le gouverneur de la préfecture de Wakayama, Yoshinobu Nishaka est optimiste que la coopération entre le gouvernement indonésien et le gouvernement régional au Japon contribuera au développement de l'Indonésie. Il espère que la coopération produirait une relation plus bénéfique entre les deux pays. L'Indonésie est un marché potentiel pour le développement de la coopération économique parce que l'Indonésie a une grande population, y compris beaucoup de jeunes générations potentielles. Il a été déclaré par le gouverneur de la préfecture de Wakayama, le Japon, Yoshinobu Nishaka, en marge de sa visite en Indonésie mardi à Jakarta. Selon lui, l'Indonésie est un pays promoteur pour renforcer la coopération économique, notamment avec le Japon. Il voulait donc augmenter la bonne relation avec l'Indonésie. L'Indonésie est un marché intéressant car elle a un grand nombre de populations, y compris la jeune génération, avec les capacités et la force variées. Elle dispose également d'une bonne croissance économique. Voilà pourquoi je considère l'Indonésie comme un pays promoteur et nous essayons d'accroître la coopération. Le gouverneur de la préfecture de Wakayama, Yoshinobu Nishaka, visite l'Indonésie pendant 5 jours, du 16 au 20 avril 2016. Lors de sa visite, le gouverneur Yoshinobu Nishaka a rencontré plusieurs intervenants en Indonésie pour intensifier la coopération économique et pour promouvoir le potentiel de la préfecture de Wakayama en Indonésie. En outre, il a rencontré le gouverneur de la province d'Aceh, M. Zaini Abdullah, la Chambre de commerce et d'industrie de l'Indonésie et le directeur général du développement des exportations nationales du ministère indonésien du commerce. Le gouverneur Yoshinobu Nishaka a également prononcé une conférence publique sur la journée mondiale de tsunami et a ouvert un séminaire du tourisme et de l'industrie de Wakayama. Le président Joko Widodo a assisté à la séance du Comité de la protection du milieu marin au MEPC de l'Organisation maritime internationale ou OMI dans sa visite de travail à Londres. Dans son discours lors de la réunion, le président a encouragé OMI à faire des règlements pour lutter contre la pollution marine. Jokowi a déclaré que le monde a été contaminé la pollution marine résultant des activités minières, mais il n'y a pas encore de règles globales pour prévenir une pollution. L'Indonésie estime la préservation de la mer devient la responsabilité des citoyens du monde. La prospérité future du monde dépend des pays de maintenir la mer à travers la coopération internationale, notamment via IMOI, a déclaré le président Joko Widodo au siège de l'OMI à Londres mardi 19 avril, heure locale. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'Indonésie et le Royaume-Uni sont d'accord pour établir une coopération dans divers domaines. Cette question a été discutée lors de la visite du président Joko Widodo dans ce pays. Dans la réunion entre le président Joko Widodo avec le premier ministre britannique David Cameron, ils ont signé des accords de coopération dans divers domaines. C'est ce qu'a déclaré par l'équipe de communication du président, M. Hari Dwipayana, dans sa déclaration à Londres mercredi. Il y a 5 mémorandums d'accord qui ont été signés par les deux pays, tels que la coopération des industries créatives, la coopération pour l'enseignement supérieur, la coopération de l'information et l'expérience dans l'organisation des événements sportifs du monde, le règlement sur la coopération maritime et la pêche, et la coopération entre PT Garuda, Airbus et Rolls-Royce. Le protocole d'accord a été signé, entre autres, par la ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Mme Retno Marsudi, la ministre des Affaires maritimes et de la pêche, Mme Susi Pujiastuti, et le directeur de Garuda Indonesia, M. Arif Wibowo. Avec la signature de 5 accords de coopération dans divers domaines, aujourd'hui, reflète un renforcement des relations bilatérales. Le Conseil de la coopération des investissements, ou BKPM, poursuivra les résultats d'investissement entre le président Joko Widodo et le directeur de la société allemande et le chef de BKPM, M. Franky Sibarani, dans un communiqué de presse mardi à Jakarta, a déclaré que l'une des mesures des BKPM était de former une équipe de promotion de l'investissement pour superviser l'intérêt de l'investissement de l'Allemagne. Franky Sibarani espère d'augmenter la confiance des investisseurs en Allemagne à l'Indonésie. Selon lui, certaines entreprises allemandes qui ont rencontré le président ont investi en Indonésie. Quand ils ont rencontré le président Joko Widodo, ils ont présenté des plans d'expansion de ces investissements. D'autres investissements potentiels sont le secteur d'automobile, outre la fonderie. L'Indonésie sera l'hôte de la 26e Conférence internationale des partis politiques d'Asie, ou ICAPP, qui est devenu le forum pour l'échange d'informations et l'expérience et la coopération entre les partis politiques. Il a été déclaré par le membre du comité permanent, Theo El Sambuaga, dans une conférence de presse au Parlement mardi, Jakarta. Selon Theo El Sambuaga, aujourd'hui, PDIP et Golkar sont les membres du comité permanent de la ICAPP. Il a déclaré que le forum était une manifestation des relations entre les partis politiques et est très spécial parce que c'était la première réunion trilatérale entre le SIPA, les représentants des partis politiques africains, ou ACPP, et des représentants de l'Amérique latine. Cet événement aura lieu du 22 au 23 avril 2016 sur le thème Le rôle des partis politiques à accroître le bien-être public. À travers ce thème, les partis politiques de l'Asie, l'Afrique et l'Amérique déterminent à encourager le rôle des partis politiques pour améliorer la démocratie et le bien-être du peuple. Theo Sambuaga a déclaré que cet événement sera ouvert par le vice-président Youssouf Kalla et fermé le 24 avril 2016. C'était le journal de la Voix d'Irlésie, diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Pour la rubrique suivante, écoutez la rubrique culturelle et apprendre l'indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers auditeurs. C'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation ainsi que les arts et la culture de diverses régions d'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous présenter Jam Gadang, ou la tour de l'horloge à Bukit Tinggi, en province de Sumatra Ouest. Sérieusement, Sumatra Ouest est l'une des provinces en Indonésie qui est célèbre pour les nombreuses attractions touristiques, dont l'une est la ville de Bukit Tinggi. Cette ville était autrefois la capitale d'État. En 1948, sous le gouvernement d'urgence de la République d'Indonésie. La ville à l'air froid est une icône touristique qui devient la marque distinctive célèbre, à savoir Jam Gadang ou la tour de l'horloge. En plus d'être un marqueur de temps, la tour de l'horloge est également un marqueur du centre-ville. En 2016, cette icône touristique a 190 ans. Serviteur, la tour est un marqueur du centre-ville car il est situé dans la ville, dans en forme de tour avec une hauteur de 26 mètres. La construction de base mesure 13 x 4 avec ligne style européen à l'époque avec de 83. Il y avait 4 horloges dans la tour, au pic de la tour sur les 4 côtés de la partie supérieure du bâtiment. Ces horloges ont la couleur base blanche, la petite aiguille a la forme classique noire. Les chiffres qui sont écrits à ces horloges sont les chiffres romains. Sagittaire, la tour de l'horloge a été achevée en 1826. La tour de l'horloge a été construite comme un cadeau de la reine néerlandaise à Rookmaker, qui est contrôleur ou secrétaire de la ville de Bukit Tinggi à cette époque. L'architecture de la tour de l'horloge a été conçue par l'architecte local, à savoir Yazid Rajo Mangkuto et Sultan Gigi Amé. La pose de la première pierre a été faite par le premier fils de Rookmaker qui a à ce moment 6 ans. La construction de la tour de l'horloge a absorbé 3000 gulden. Bien que Jam Gadang soit un cadeau de la reine des Pays-Bas, mais le fabricant de machines de l'horloge n'est pas néerlandais, mais un noble américain Foreman. Serviteur, depuis sa fondation, le bâtiment a connu trois changements à la forme du toit. Lorsque le règne des Indes néerlandaises, la forme du toit de la tour de l'horloge était ronde avec une statue de coq en direction à l'est au-dessus. Tandis qu'à la période coloniale japonaise, le toit se transforme en forme d'une pagode. Enfin, après l'indépendance de l'Indonésie, le toit est reconverti en forme de gonjong ou en toit de la maison traditionnelle de Minangkabau, à savoir Rumah Gadang. En 2010, précisément lors du 262e anniversaire de Bukit Tinggi, on a inauguré l'achèvement de la rénovation de tour de l'horloge. La rénovation a été effectuée par le Conseil de préservation du patrimoine indonésien, BPPI, avec le soutien du gouvernement de Bukit Tinggi et l'ambassade néerlandaise à Jakarta. Maintenant, la tour de l'horloge est majestueuse et gracieuse. Le parc de Sabainan Alwi, situé autour de la tour de l'horloge, le palais de Bung Hatta et le marché Ate, situé derrière la tour de l'horloge, semblent être une unité qui est encadrée magnifiquement par le panorama du canyon Sianok. Serviteurs et serviteurs, c'est le magazine culturel pour ce soir avec le titre Jam Gadang ou la tour de l'horloge à Bukit Tinggi en province de Sumatra Ouest. Demain, nous nous retrouverons avec un nouveau sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide à parler l'indonésien. Ce soir, le sujet est Hari Kartini ou en français, la journée de Kartini. Comme d'habitude, je vais tout d'abord introduire le vocabulaire et les expressions liées au thème d'aujourd'hui. Je dirai chacun deux fois et vous pouvez les répéter après moi. Beberapa tempat. Beberapa tempat. En français, quelques places. Membaca. Membaca. En français, lire. Menyambut. Menyambut. En français, bienvenue. Siapa. Siapa. Qui. Toko. Toko. En français, figure. Wanita. atau perempuan, wanita atau perempuan, en français, femme. Pahlawan nasional, pahlawan nasional, en français, héros national. Pelopor, pelopor, en français, pionier. Kebangkitan, kebangkitan, en français, résurrection. Lahir, lahir, en français, être né. 21 April, 21 April, en français, 21 avril. 1879, 1879, en français, 1879. Mengetahui, mengetahui, en français, connaître. Menonton, menonton, en français, regarder. Film, film, en français, film. Menceritakan, menceritakan, en français, raconter. Kehidupan sehari-hari, kehidupan sehari-hari, en français, vie quotidienne. Berdasarkan sejarah, berdasarkan sejarah, en français, base de l'histoire. Menarik, menarik, en français, intéressant. Telepon, telepon, en français, téléphone. Ensuite, je vais vous donner l'exemple de conversation intitulée Hari Kartini ou en français La journée de Kartini. Comme d'habitude, je vais prononcer lentement phrase par phrase deux fois. Vous pouvez les répéter après moi. Cette conversation est entre Anne A et Nita B. A. Di beberapa tempat, saya membaca menyambut Hari Kartini. A. Di beberapa tempat, saya membaca menyambut Hari Kartini. En français, à quelques places, je lis bienvenue le jour Kartini. A. Siapakah Kartini itu? Siapakah Kartini itu? En français, qui est Kartini? B. Kartini adalah seorang tokoh wanita Jawa. Kartini adalah seorang tokoh wanita Jawa. En français, Kartini est une héroïne javanaise. B. Dia juga adalah pahlawan nasional Indonesia. Dia juga adalah pahlawan nasional Indonesia. En français, elle est aussi l'héroïne nationale d'Indonésie. B. Di Indonesia, Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan Indonesia. Di Indonesia, Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan Indonesia. En français, en Indonésie, Kartini est connu pionnier de la résurrection de femmes indonésiennes. A. Kapan Kartini lahir? Kapan Kartini lahir? En français, quand Kartini est né? B. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879. En français, Kartini est né le 21 avril 1879. B. Oleh karena itu, tanggal 21 April dikenal sebagai Hari Kartini. Oleh karena itu, tanggal 21 April dikenal sebagai Hari Kartini. En français, c'est pourquoi le 21 avril est connu comme le jour Kartini. B. Supaya kamu lebih mengetahui tentang Kartini, mari kita menonton film tentang Kartini. Supaya kamu lebih mengetahui tentang Kartini, mari kita menonton film tentang Kartini. En français. Pour que vous connaissiez davantage sur Kartini, allons regarder le film sur Kartini. B. Film ini menceritakan tentang kehidupan sehari-hari Kartini. Film ini menceritakan tentang kehidupan sehari-hari Kartini. En français. Ce film raconte sur la vie quotidienne de Kartini. B. Tetapi tetap berdasarkan sejarahnya. Tetapi tetap berdasarkan sejarahnya. En français. Mais il est basé sur l'histoire. A. Ayo kita tonton film Kartini. Ayo kita tonton film Kartini. En français. Allons regarder le film Kartini. A. Pasti filmnya sangat menarik. Pasti filmnya sangat menarik. En français. Certainement, le film est très intéressant. B. Baiklah, nanti saya telepon kamu. Baiklah, nanti saya telepon kamu. En français. Très bien, je vous appellerai. Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'Indonésien pour ce soir. On souhaite qu'elle soit utile pour vous qui voulez connaître la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet. Merci à tous et à demain. Comme la fin de notre émission, nous vous présentons la rubrique de distraction.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers fidèles amis, la voix de l'Indonésie dans quatre angles du monde. Je vous souhaite que vous restiez fidèles à l'écoute de nos émissions, le magazine de musique. Et vous pouvez écouter notre émission sur la fréquence 9525 kHz ou bien avec audio streaming sur www.voi.co.id ou bien avec l'application RRI Play sur votre gadget. Chers auditeurs et auditeurs de la voix de l'Indonésie, dans cette édition de magazine de musique, on vous présente le chanteur indonésien Adera. Comme le début de notre rencontre, allez écouter d'abord la chanson de Jeune Adera intitulée Lebih Indah. Bonne écoute.
Dalam jiwaku kan ku petik satu untukmu.
Chers amis, le vrai nom de Adera est Adera Prabulantip Trengginas. Il est né à Jakarta au 6 janvier 1986. Il a lancé son premier album en 2011, dont le titre est Lebih Indah. Cette chanson raconte un garçon qui trouve son amour après des années sans un manque. Chers amis, la piste Lebih Indah a été publiée par le YouTube et vue par plus de 5 000 personnes. Tandis que sa deuxième chanson, Terlambat, ou bien après le lancement, était très populaire aux radios en Indonésie. En 2012, Adera a fait le solo concert à la halle de l'Université Muhammadiyah Malang en province de Java de l'Est, qui absorbe le fonds d'un montant de 30 millions de rupiah ou environ plus de 3 000 euros et a fait du succès. Chers amis, avant de continuer notre rencontre, allez écouter la chanson de Adera intitulée Terlambat. Bonne écoute.
Andai saja waktu itu tak kutunda, tuk ungkapkan isi hati kepadanya. Mungkin dia jadi milikku, bahagiakan hariku. Oh, tetapi kenyataan tak begitu. Di saat ku coba merajut kata dan berharap semua menjadi sempurna, tiba-tiba ada yang lain yang mencuri hatinya. Hilang sudah kesempatanku dengannya. Terlambat sudah semua kali ini. Yang ku inginkan tak lagi sendiri. Bila esok hari sudah berganti, kesempatan itu terbuka kembali. Akan ku coba lagi. Cukup sudah kesalahan kali ini. Jangan sampai semua terulang kembali. Keraguan dalam hatiku harus ku buang jauh. Bila ingin mendapatkan yang terbaik, terlambat sudah semua kali ini. Yang ku inginkan tak lagi sendiri. Bila esok hari sudah berganti, kesempatan itu terbuka kembali.
hapus semua luka yang kurasa, membiarkan hatimu jatuh di pelukanku, memaksa nuraniku untuk jatuh cinta. Sudah cukup waktuku mengenalmu, aku ingin membawamu lebih jauh, membiarkan asmara bicara sejujurnya, melabuhkan rindu di antara kita. Hatiku hilang di dasar samudra cinta.
C'est la fin de notre émission. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voix Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.